Panem tetiakenses. Donnez-leur du pain et des jeux. Les jeux, d'une manière générale, sont de très bons alliés pour le cerveau. Ils stimulent la mémoire, l'attention et la capacité d'analyse. Certains d'entre eux font également appel à vos réflexes. C'est une saine activité. Les jeux vous demanderont d'apprendre régulièrement de nouvelles règles, de découvrir un univers et d'élaborer des stratégies. Lorsque nous jouons, notre cerveau nous récompense en générant du plaisir, surtout lorsque l'on gagne. Il existe même des jeux de société qui se pratiquent seuls. Je vous avoue que je suis très consommateur de ce genre de jeux et nous vivons actuellement une époque très créative dans ce secteur. Dans notre quête de l'attention, faisons un détour sur les jeux les plus utilisés, ceux présents sur les téléphones portables. Le premier à avoir marqué les esprits fut le jeu du serpent, le Snake, qui rendait si spéciaux les chanceux propriétaires d'un Nokia 3310. Le jeu du serpent est apparu sur les ordinateurs personnels dès les années 1970 et, en 1997, la marque Nokia a la brillante idée de l'installer d'office sur tous leurs téléphones. D'abord sur le Nokia 6110, puis sur le légendaire 3310 qui va s'écouler à 125 millions d'exemplaires. Ce jeu était addictif. À la fin d'une partie, on voulait en refaire une directement. Certaines personnes y jouaient tellement que le soir, en fermant les yeux dans leur lit, elles voyaient le serpent se mouvoir dans un écran imaginaire. Comment expliquer ce succès? Des graphismes plus que basiques, un concept compréhensible en quelques secondes, mais surtout, l'envie de faire mieux. Dans ce jeu, le joueur dirige un serpent qui va se nourrir de pixels et grandir au fur et à mesure. Plus la partie avance, et plus le serpent va prendre de la vitesse. Finalement, on a l'impression de perdre bêtement, à cause d'une petite erreur de manipulation ou d'un réflexe trop lent. C'est suffisant pour avoir envie de relancer une dernière partie, vite fait, en attendant la prochaine. Lorsque ce jeu est devenu populaire à la fin des années 1990, c'était bien loin d'être dans les prévisions de son créateur. Taneli Armanto, ingénieur chez Nokia, a implanté le jeu dans le logiciel du Nokia. Il a reçu pour ce fait d'armes un prix en 2005 à Londres, au Forum du divertissement mobile. Il a déclaré « Quand nous avons créé Snake pour le Nokia 6110, nous voulions permettre aux gens de se divertir, mais nous n'avions jamais imaginé que le jeu deviendrait un classique du mobile. » La technologie a beaucoup évolué depuis, au point que les jeux mobiles sont devenus une industrie représentant 50% du marché des jeux vidéo en 2023, pour un chiffre d'affaires mondial de plus de 92 milliards de dollars en 2023. On pourrait croire que la portabilité de ces jeux, toujours disponibles dans notre poche, explique ces chiffres. Chaque jour, les utilisateurs de smartphones passent en moyenne 1h30 sur leurs jeux mobiles. Cette catégorie d'applications se place très haut sur le podium du temps passé sur nos téléphones portables, avec pour seul réel concurrent sérieux, les réseaux sociaux. En voici les véritables raisons. L'apparition de la captologie. En 1996, au cœur même de la Silicon Valley, un nouveau terme apparaît dans la prestigieuse université de Stanford, captologie. Un domaine de recherche visant à exploiter les liens existants entre le changement de comportement d'une personne, ses motivations et l'informatique. La captologie est utilisée par exemple pour optimiser l'utilisation de pages web. Google, Facebook ou bien sûr Amazon en sont les champions et n'ont rien laissé au hasard. Ces géants ne cherchent pas à faire beau, mais à être fluides, efficaces et surtout à encourager les utilisateurs à rester sur leurs applications ou à revenir dessus. Sans le savoir, vous êtes guidé dans votre usage. Dans le monde réel, il y a deux manières d'optimiser son magasin en modifiant le parcours des clients. Tout d'abord, la méthode popularisée par IKEA, où l'on va créer un parcours dès le seuil de la porte. Ce chemin est pratique à emprunter, il ne demande aucune réflexion, aucune prise de décision. Le magasin fera en sorte de vous faire passer dans tous ses rayons, de vous montrer les meilleures mises en scène de ses produits. Plus vous passerez de temps dans le magasin, plus vous serez susceptible de rajouter des choses dans votre panier. Il faut faut également mentionner que ne pas suivre un chemin balisé demande un effort pour le cerveau. Et personne n'a envie d'être celui qui se distingue en jouant au saumon qui remonte le courant. Si on bloque le passage en ne suivant pas le tracé, on peut ressentir une gêne, comme si l'on faisait quelque chose d'interdit. Souvenez-vous de l'une de ces fois où vous faisiez la queue quelque part. Vous attendiez sagement que votre tour arrive et quelqu'un est arrivé et s'est placé devant vous. Au début, vous vous demandiez s'il regardait quelque chose ou s'il était en train de resquiller. Dur de le savoir puisqu'il n'a jamais jeté un seul regard dans votre direction ou dans celle de la file. Et finalement, il a vraiment pris la place devant vous. Vous avez peut-être réagi immédiatement ou avec un délai. Vous avez peut-être juste soupiré un peu fort ou marmonné « bah faut pas se gêner », assez fort pour avoir le sentiment d'avoir réagi, mais assez doucement pour ne pas amorcer réellement le conflit. Dans tous les cas, c'est parce qu'il est énergivore d'être celui ou celle qui va se démarquer dans la foule en faisant un scandale que vous n'avez rien dit. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes suivent le tracé chez IKEA. À l'opposé, il y a la technique de chez Harrods, à Londres. Entrer dans ce magasin revient à pénétrer dans le terrier du lapin blanc. On se perd, on est désorienté et on aime ça. Des petits espaces à thème se succèdent au hall gigantesque. Une surprise vous attend derrière chaque encablure de porte. Impossible de s'y retrouver dans ce labyrinthe rempli de merveilles. Si tant est que vous ayez un profil complétiste, qui cherche à terminer une tâche à 100% en incluant des actions non primordiales pour l'objectif, vous mettrez un point d'honneur à essayer d'être sûr d'avoir tout vu. Les spécialistes en captologie ont mixé ces deux manières de faire pour les trois sites que je vous ai cités. Amazon, Google et Facebook sont aussi faciles à suivre qu'un magasin IKEA, mais vous proposent toujours quelque chose que vous n'aviez pas prévu, comme chez Harrods. Lorsque la captologie s'est attaquée aux jeux sur les téléphones portables, les domaines de compétences qu'il a formés étaient déjà bien avancés. Spécialiste du marketing, expert de la neuroéconomie, scientifique, analyste, statisticien, etc. Il ne restait qu'à développer des jeux sympas ou des jeux originaux. Il fallait créer des jeux où l'on reste, où l'on revient, où l'on dépense. Des jeux où l'on consomme de la publicité, où l'on invite les autres utilisateurs à jouer. Et comment peut-on faire ça? En manipulant le cerveau des joueurs. Ces jeux se sont d'abord orientés dopamine. Cette petite molécule sympa est fabriquée par votre cerveau pour vous donner du plaisir et de la motivation. C'est en partie grâce à cette molécule que l'humain se dépasse, qu'il sort de sa zone de confort pour s'accomplir, évoluer ou encore chercher les ressources qui lui manquent. Mais cette molécule possède un léger défaut. Elle crée de l'addiction. C'est le revers de la médaille. Et c'est surtout le bon moment pour parler plus en détail du circuit de la récompense. Le circuit de la récompense. Faire une découverte scientifique par hasard porte un nom, la sérendipité. C'est en ratant la formule d'une colle extra-forte que les post-it ont été créés. L'utilisation du Viagra tel qu'on la connaît est un effet secondaire d'un médicament pour les maladies respiratoires. Et la découverte de la pénicilline résulte d'une maladresse sur une table de travail. Justement, c'est en voulant faire des recherches sur le centre de vigilance du cerveau qu'a été découvert dans les années 1950 le centre du plaisir. Nous sommes à Montréal, en 1952, à l'université McGill. Milner est professeur et encadre Olds pour les travaux de recherche nécessaires à son doctorat. Olds veut essayer de stimuler une région du cerveau des rats à l'aide d'électrodes pour que les rongeurs évitent naturellement certaines zones de leur enclos. La stimulation se fait à l'arrière de l'hypothalamus, à l'endroit où se trouve le centre de vigilance. Nous pourrions parler de ces animaux sacrifiés au nom de la science, mais nous sortirions du sujet initial. Contentons-nous de dire qu'à cette époque, nous n'avions pas la même conscience animale que de nos jours. À chaque fois que les rats allaient dans le secteur cible de l'enclos, cette zone de leur cerveau était stimulée par un courant électrique. Aucune douleur, le cerveau ne comporte pas de récepteur de douleur, mais avec cette activation de la zone de vigilance, les rats quittaient immédiatement le secteur, comme s'ils avaient perçu une menace, et surtout, ils n'y revenaient plus. L'expérience était un succès, tous les rats réagissaient comme prévu. Tous ? Non. L'un d'entre eux résistait encore et toujours à la stimulation. Un rat qui, au contraire, retournait dans la zone et activait son électrode. Holtz pensa dans un premier temps que le rat était moins sensible que ses congénères. Et il augmenta l'intensité électrique dans l'électrode. Mais plus il augmentait la dose, et plus le rat retournait rapidement à l'endroit qu'il était censé fuir. Pour comprendre ce qu'il se passait, Holtz procéda à l'autopsie de l'animal. Il découvrit qu'il avait commis une erreur. L'électrode n'était pas là où elle aurait dû être, mais quelques millimètres à côté, assurément dans une zone provoquant quelque chose de l'ordre du plaisir au vu du comportement du rat. Le doctorant et son professeur mirent alors en place une expérience dédiée à cette découverte fortuite. De nouveaux rongeurs, avec une électrode plantée dans ce qui se révéla être le cortex septal, furent déposés dans une cage contenant un levier. Ce levier était directement relié à un système de stimulation électrique, lui-même relié à leurs électrodes individuelles. Si le rat actionnait le levier, le courant activait le centre du plaisir du rat. Les résultats ont rapidement dépassé toutes les prédictions qu'avaient pu estimer les chercheurs. Ce n'est pas la première fois que des expériences faites sur les rats impliquaient qu'ils obtiennent une récompense en échange d'une action. Trouver de la nourriture à la fin d'un labyrinthe, par exemple, est une bonne motivation pour tester l'aptitude des rats à mémoriser un trajet. Mais dans cette nouvelle expérience, les rats activaient sur une seule journée le levier 200 fois par heure, en moyenne. Dans les plus hautes statistiques, certains rats ont activé le levier 100 fois en une minute, soit presque deux fois par seconde. Plus troublant encore, l'augmentation de l'intensité de la stimulation électrique ne ralentissait pas leur volonté d'activer le levier. La charge était parfois tellement forte que certains rats étaient littéralement projetés à l'autre bout de la cage. Mais dès qu'ils reprenaient leurs esprits, ils se précipitaient de nouveau sur le levier pour recevoir un nouveau choc. Une addiction au levier était née. Les priver du levier pouvait rendre les rats agressifs. Couper la récompense les amenait à activer le levier frénétiquement pour rien. Pire encore, les besoins primaires étaient complètement ignorés. Les femelles pouvaient délaisser leur portée pour aller s'auto-stimuler. La plupart des rats préféraient ne pas manger, quitte à en mourir. Seul le sommeil ne pouvait être évité, mais il était réduit à son strict minimum pour vite aller chercher sa dose. Depuis les années 1950, les scientifiques ont découvert d'autres zones responsables du plaisir d'un point de vue général ou associées à des actions précises, comme le soulagement de la soif, par exemple. C'est en partie pour donner suite à ces travaux et à l'utilisation contestable des rats dans les expériences que des progrès ont été faits dans la compréhension de l'addiction. C'est la notion de plaisir liée à la libération de dopamine dans le cerveau qui en est la principale cause. Comment font les jeux mobiles pour exploiter notre circuit de la récompense? Mettons de côté les jeux payants. Je parle des véritables jeux où le fait de donner une somme d'argent permet d'avoir le jeu à 100%, sans limitation dans l'utilisation et sans bonus possible dans le jeu, en échange d'une contrepartie financière. Il nous reste les jeux gratuits ou peu coûteux, mais incluant des achats à l'intérieur du jeu pour pouvoir en bénéficier pleinement. La première technique consiste simplement à offrir un échantillon. Mais là où les magasins de parfums vous donnent ce qui est visiblement une dose d'essai, les jeux font semblant d'être complets. Vous n'avez pas l'impression de recevoir une version limitée. C'est comme si vous receviez un flacon de parfum entier, sans savoir que dans quelques jours, son odeur tiendra de moins en moins longtemps et qu'il vous faudra payer pour augmenter sa performance, qui restera quand même en dessous de sa performance initiale. La deuxième technique visant à détourner votre attention est de vous faire gagner vite et longtemps. Vous allez enchaîner une dizaine de niveaux, voire plus, sans grande difficulté. Le jeu aura des couleurs vives, un principe de base très simple à comprendre qui viendra s'étoffer par la suite et vous allez cumuler les victoires. Vous avez alors l'impression de mériter vos réussites. Peut-être même penserez-vous avoir développé une technique particulière. C'est un biais cognitif appelé l'illusion de compétence. Comme au casino, les joueurs les plus addicts ont souvent commencé leur carrière à la machine à sous par un gain fortuit. et ont depuis l'impression qu'en reproduisant les mêmes conditions sur la même machine, ils pourraient gagner de nouveau. Sauf que pour les jeux sur mobile, pas de place au hasard. Il faut que vous gagniez pour qu'ils puissent enclencher la dernière technique. La troisième technique commence par activer votre circuit de récompense. Les niveaux des jeux sont souvent notés avec des étoiles, entre 1 et 3, en fonction de la qualité de votre réussite. Il ne s'agit plus de gagner un niveau, mais de faire le meilleur score pour obtenir les 3 étoiles. Quelle satisfaction ! Et comme les premiers niveaux sont faciles, vous commencez à forger une chaîne de réussite où il est très désagréable d'imaginer un maillon à 1 étoile au milieu des niveaux à 3 étoiles. D'autres méthodes vont être utilisées, comme celle de la récompense quotidienne. Oui, votre fidélité est récompensée. Si vous jouez chaque jour, vous allez débloquer des bonus. Les temps de rechargement de certains bonus ou de certaines parties vous demanderont également de revenir plusieurs fois dans une même journée. Le but est logique. Créer une habitude. Celle où, à chaque fois que vous aurez un moment, vous serez tenté d'ouvrir le jeu pour récupérer vos bonus et, pourquoi pas, faire une petite partie. Petite, car les niveaux sont pensés pour être rapides. Vous n'avez pas à arbitrer mentalement sur le temps que vous avez pour jouer, puisque ça ne vous prendra qu'une minute. Et encore une, et encore une. Certains de ces jeux vous permettent de bâtir des choses. Plus vous bâtissez, plus cela prendra de temps pour que la construction soit terminée. D'autres jeux vous proposent un nombre de parties limité par jour. Limitation qui commencera seulement une fois l'habitude installée et que votre circuit de récompense sera addict au jeu. Jouez souvent, jouez longtemps. Tout est pensé, scientifiquement, pour que l'utilisateur joue souvent et longtemps. Dans un premier temps, les jeux sont fluides et simples. Pour être rentable, ces jeux gratuits ont une régie publicitaire très active. Plus vous passez du temps à enchaîner les niveaux, plus vous devrez regarder des publicités, souvent pour d'autres jeux, dont les publicités utilisent aussi des principes psychologiques pensés pour capter votre attention. Mais ça n'est pas le plus rentable pour cette industrie. Il faut qu'ils vous incitent à faire des achats dans l'application. Vous aurez la possibilité d'acheter des options pour aller plus vite, pour être plus fort, et surtout pour moins attendre. Les paiements sont toujours faits dans une unité qui est la monnaie du jeu, des diamants, des pièces d'or, etc. Cette monnaie virtuelle veut vous faire oublier qu'il s'agit de véritables euros. Dans les premiers niveaux, le jeu va vous offrir de petites sommes de cette monnaie pour vous habituer à vous en servir. J'ai même vu des jeux qui obligeaient le joueur à dépenser sa monnaie virtuelle offerte au départ afin de lui faire réaliser sa première fois dans la boutique. Simplifions l'équation pour voir l'étape où tout se déclenche. Des niveaux faciles, du plaisir, des niveaux faciles, du plaisir, des cadeaux en monnaie virtuelle, des niveaux faciles, du plaisir et tout à coup, un niveau difficile. Une sensation nouvelle et désagréable vous envahit et vous incite à acheter un bonus pour gagner. Si tout est aligné, vous ferez partie des 2% des joueurs qui font un achat avec leur carte bancaire au moins une fois dans ce genre d'application. En 2016, le cabinet SWRVE a publié les résultats d'une étude réalisée sur des dizaines de millions de joueurs grâce aux données des jeux. Il en ressort que 0,19% de joueurs d'un jeu génèrent 48% du chiffre d'affaires du jeu. Les 52% restants du chiffre d'affaires sont obtenus grâce aux publicités visionnées par les 99,81% des joueurs restants. Pas de quoi inciter les sociétés de production à être plus éthiques vis-à-vis de votre attention. Renforcer l'addiction, de l'attention contre de l'argent. La plupart des jeux vont également utiliser un système de gratification simpliste, les félicitations. Quelles qu'elles soient, la plus petite de vos réussites va générer des compliments sous forme de mots, mais aussi d'animations, de couleurs et de sons. L'application veut encore stimuler votre circuit de récompense. À l'Université de Columbia, un traitement bloquant certains récepteurs de dopamine a été testé sur des rats. Les rongeurs étaient enfermés dans une cage équipée d'un levier, comme dans l'expérience décrite sur le circuit de la récompense. Si le levier était activé, une pastille de sucre était libérée. Les rats allaient donc se servir à la demande de ces friandises. Une autre version a été testée. Des lumières clignotantes et des sons étaient prévus au niveau du bac à friandises. Une routine lumineuse et sonore se déclenchait lorsque le levier était activé. Rapidement, les rats piégés dans ce système se sont servis beaucoup plus fréquemment. Ils avaient développé une addiction au sucre dans les deux cas, mais pour ceux enfermés dans cette simulation de casino, l'addiction avait été décuplée par le renforcement sensoriel. Il est possible que vous sachiez déjà, en surface, ce que j'explique. Je veux que vous compreniez que rien n'est laissé au hasard. Certains de ces jeux peuvent rapporter jusqu'à 1 million de dollars par jour. Je vous l'avais dit, votre attention vaut de l'or. Dernièrement, j'ai pu observer une mode concernant la promotion de ces jeux gratuits. Au lieu d'avoir une publicité vantant les mérites du jeu, vous pouvez voir une partie se dérouler sous vos yeux où le joueur finit par perdre alors que vous, vous aviez compris exactement ce que le joueur aurait dû faire. Vous avez trouvé la solution sans y penser vraiment, un peu comme lorsque je vous proposais de regarder un mot en essayant de ne pas le lire, c'est automatique. Si vous doutez de l'impact de cette méthode, repensez aux fois où quelqu'un n'arrivait pas à ouvrir un bocal ou une bouteille et que vous avez dit « passe-le-moi, je vais le faire ». Lorsque le joueur de la publicité rate de façon stupide, il fait naître en vous une envie impérieuse de réussir à sa place. Refusez d'être le cobaye de ces concepteurs de jeux gratuits. Nous avons tous la même psychologie et nous sommes tous sensibles à ces méthodes. Je fais partie de ces rats qui peuvent se perdre à aligner des bonbons pendant des heures. Je n'ai trouvé qu'une seule solution. Dès que je sens qu'un jeu génère une emprise anormale sur moi, gratuit ou payant, je le désinstalle. C'est la seule solution viable et militante pour se protéger.